Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Les chemins inconnus de la vieillesse et même de la grande vieillesse, on les espère à la fois, on les appréhende. Que laisser, que choisir, que faire pour vivre pleinement cette nouvelle phase de la vie sans être à la charge ni de son entourage et ni de la société. Cette société dite du troisième et quatrième âge de plus en plus importante, il est grand temps d'en regarder l'évolution, les changements, les potentialités et les particularités. Il est grand temps de la sortir du seul domaine médical, en ne pointant que faiblesse, dépendance et perte d'autonomie. Frédéric Savona-Chinier, après un travail de recherche, de rencontre et d'écoute qui a donné lieu à la rédaction d'un master de sociologie, a écrit un ouvrage qui en découle, intitulé « Les nouveaux vieux sont arrivés » paru aux éditions InPress. Frédéric Savona-Chinier, bonjour.
Bonjour.
Alors d'emblée, je me suis dit que vous refusiez les circonlocutions comme « personne âgée » qui atténue la dureté qu'on applique au terme « vieux »,« vieillard », »,« vieillesse ». Parlons franc. On va parler franc, c'est ça ?
Parlons franc. En fait, c'est périphrase. Ce qui est assez surprenant, c'est que hier soir, nous avions un débat à la librairie Ombre Blanche et je me suis rendu compte avec la salle que certaines personnes donc de plus de 75 ou de 80 ans, étaient très peinées de ce terme vieux et me disaient « mais pourquoi vous parlez de vieux ?» Et pour moi, il n'était évidemment pas question d'augmenter la stigmatisation des personnes âgées, mais au contraire d'employer un mot. Le vrai mot qui, au fil du temps, s'est chargé de connotations multiples et variées et toutes dévalorisantes.
Alors, ça c'est bien vrai, parce que l'image qui est renvoyée aux vieux, elle est terriblement déformante, négative, pessimiste. Et je me suis amusée à regarder les proverbes et les citations qu'il y avait. Alors, jeunesse et diablerie, vieillesse, ânerie. Les infirmités sont l'apanage de la vieillesse. La vieillesse menace de ruine. Vieillesse, pauvreté, maladie affligent le corps et abrègent la vie. Enfin bon, la vieillesse est par elle-même une maladie, ça c'est Terence quand même. Hein. La vieillesse, la dernière politesse de la moisissure, ça c'est Stenberg. Bon, il n'était pas optimiste. Hein. Alors heureusement qu'il y a Agatha Christie que j'adore. Il y a Volinsky, ça m'a étonné. Vieillir, c'est savoir perdre. J'ai bien aimé savoir perdre. Ou Bretochet, j'ai été étonnée aussi, cette auteure de BD formidable. Vieillir, c'est une liberté formidable, qu'elle dit. Alors voilà, en voilà quelques-uns qui ont quelques traits positifs au sujet de la vieillesse. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? C'est une question qu'on a dû vous poser très, très souvent.
Mais qui est tout à fait naturelle. En fait, ce sujet, donc, moi je travaillais côté culture au départ, hein, je suis conservatrice, donc j'avais rien à voir avec le domaine social.
Oui, et je précise d'ailleurs, vous êtes conservatrice à Bibliothèque Nationale de France.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, j'ai souhaité donc, à la quarantaine, m'intéresser à un sujet qui me passionnait depuis très longtemps, qui était le secteur social et les politiques publiques, politiques sociales. Et puis, comme je n'étais pas du Sérail, il était assez difficile de trouver une porte d'entrée. Au fil des discussions, je suis arrivée, moi je ne crois pas au hasard, mais je suis arrivée sur cette thématique en échangeant avec des professeurs d'université, du vieillissement. Et puis, ça a tout de suite fait tilt, parce que je me suis dit qu'effectivement, on en parlait énormément dans les médias, et pas forcément de façon très engageante. C'est-à-dire, en gros, l'augmentation, moi j'avais en mémoire le livre blanc de Michel Rocard, et je me disais, c'est vrai que l'image qu'on nous renvoie, c'est la France vieillie, la population vieillie, d'ailleurs il faudrait revenir sur cette expression qui à mon avis pose aussi plus de questions qu'elle n'en résout, la France vieillie. Il y a de plus en plus de vieux, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vieux, comment on va les gérer, qu'est-ce qu'ils vont nous coûter. Et en cherchant, plus j'avançais dans mes recherches et mes observations, plus je me disais, mais en fait, c'est quand même aberrant, on a érigé la vieillesse en problème. C'est-à-dire que, au lieu de partir d'un constat qui pourrait être tout à fait compréhensible et qui serait de s'occuper des personnes en perte d'autonomie, âgées ou pas, hein, des personnes ayant des difficultés économiques, âgées ou pas, non, c'est la vieillesse tout entière qui est devenue un problème. Et ce problème, il date des années 60 hein, en France. Alors, comme vous l'avez très bien dit, la vision en Occident, pas dans les cultures, que ce soit au Japon, même en Afrique, ça c'est très différent, la vision des vieux là-bas. Mais en Occident et dans nos sociétés à nous, c'est vrai que la vieillesse, ça a toujours été très ambivalente, à la fois la sagesse, mais en même temps tout ce que vous venez de rappeler. Et donc, au fil de mes lectures et de mes observations, je me suis dit, mais il faut que je cherche à comprendre pourquoi on en est arrivé, alors que nos sociétés, le profil démographique de nos sociétés a profondément changé avec l'allongement de la vie. On sait maintenant qu'on a et qu'on aura définitivement une grande partie de la population qui va être âgée. Comment se fait-il qu'on reste sur un modèle complètement obsolète ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de place, qu'il n'y ait quasiment pas de visibilité pour des personnes qui, bien sûr, il ne s'agit pas de repousser l'âge de la retraite à 80 ans, c'est pas le propos, hein. Mais pour des personnes qui sont tout à fait capables, dans leur large majorité, puisque la perte d'autonomie concerne à peu près 15% des personnes de plus de 80 ans, donc, et les autres. Mmh. Et c'est ça qui me choquait.
Alors justement, Vincent Caradec, le professeur à l'université de Lille, sociologue, spécialiste des questions de vieillissement et qui a fait l'introduction de votre ouvrage, dit que c'est depuis 70 qu'on assiste à la conjonction de trois phénomènes. Le rallongement de l'espérance de vie, oui. Ce que vous dites, hein. L'accroissement de la richesse qui fait que finalement, parce que quand on était âgé à une époque, on était vraiment très dans le dénuement. Mmh. Donc maintenant, il y a des retombées, il y a les retraites justement pour lesquelles les gens ont cotisé. Et puis, il y a également une vision quand même un peu plus positive de la vieillesse malgré tout. Lui disait, mais pas, c'est pas évident ça.
C'est ambivalent parce que, effectivement, la notion de troisième âge qui est apparue donc, dans les années 70 a cantonné cette population dans un domaine un peu occupationnel, un petit peu de loisir. Et donc, on n'a pas vraiment réfléchi sur notre fonctionnement social global.
Oui.
Ça ne s'est pas fait. Et du coup. Moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup de Michel Philibert, donc qui date de ces années 60, qui est un philosophe, hein, qui s'est beaucoup intéressé au vieillissement, et qui disait, qui dénonçait en fait une société qui prend pour une évidence de nature la dévalorisation des vieux au lieu d'y voir un trait de sa propre culture. Et ça me semble profondément juste. Et dès les années 70, donc l'époque à laquelle se réfère Vincent Caradec, il y a des chercheurs très engagés, je pense à Henri Laborie, en biologie, oui. Qui dénonçait aussi, lui, l'absence de réflexion globale sur notre fonctionnement social et la place que devaient occuper les plus anciens, les plus âgés, oui. Les vieux, pour parler franc. Et lui parlait carrément de raison de vivre. C'est-à-dire que moi, ce qui me choquait, et c'est pour ça que je me suis intéressée au sujet, c'était on nous rebat les oreilles avec la notion de bien vieillir. Bien sûr que tout le monde a envie de vieillir en forme.
Évidemment.
Personne n'a envie d'être malade, de souffrir et d'être fatigué. Mais bien vieillir, pourquoi ? Pourquoi faire ?
C'est la question.
C'est la question du sens, de l'identité,
exactement.
Qui est fondamentale.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a maintenu et on maintient encore les personnes âgées, les vieux, dans des zones ludiques.
Exactement. Et quand elles ne le sont pas, il y a quand même un grand isolement. Il n'y a aucun modèle collectif de valorisation proposé à ces personnes. Et ce qui m'a touchée, c'est pour ça que pour moi, la rencontre avec Hold Up, outre le nom qui m'a immédiatement attiré, le nom de l'association.
On va en parler,
j'imagine. Était pour moi une aubaine, parce que je rencontrais là un collectif qui regroupait déjà à l'époque près de 300 personnes et qui se proposait de réfléchir collectivement à ce qu'ils s'autorisaient à être et à ce qu'on les autorisait à être aujourd'hui.
Oui. Alors, je vais, si vous le permettez, lire quelques chiffres que vous donnez dans votre ouvrage. En janvier 2016, la France, qui comptera 200 000 centenaires en 2100, soit 10 fois plus qu'aujourd'hui, a promulgué la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Les instances européennes défendent un vieillissement actif et souhaitent gagner 2 ans d'espérance de vie en bonne santé d'ici 2020. Voilà. Alors évidemment, il y a des enjeux économiques. Vous dites un peu plus loin, l'espérance de vie avoisinera 95 ans en 2100. Que sera-t-elle en 2200 ? Nous allons devenir immortels, voilà. Et depuis quelques années, certains chercheurs estiment que les connaissances scientifiques pourraient permettre de ralentir les processus de vieillissement. Voilà. Alors on peut effectivement. Mais il y a quelque chose d'étonnant, c'est que dans le fond, notre société ne se projette jamais dans l'avenir.
C'est ça le problème. Et si vous voulez, moi, ce qui me choque énormément dans le passage que vous venez de citer, c'est il y a plusieurs choses. En ce qui concerne les nanotechnologies et les processus de ralentissement du vieillissement, ça nous renvoie à notre peur de la mort, qui est normale, hein, qui est compréhensible. Mais je me dis, c'est quand même notre condition. Et la finitude fait partie de notre condition. Donc ça, c'est déjà une donnée qui est très
importante. Et en fait, on ne l'intègre pas, et même on la cache.
On la cache, la camoufle. Et la chose qui m'effraie aussi, là, c'est économique. Je vois bien quelles sont les sociétés qui actuellement se jettent sur l'exploitation de ces nanotechnologies. On peut citer Google, mais il y en a d'autres.
Oui, oui.
Et je crains que ces phénomènes ne fassent qu'accroître les inégalités sociales. C'est-à-dire qu'on aura en somme une vieillesse à deux vitesses, où les gens les plus aisés pourront se payer des technologies excessivement chères qui leur permettront de rester en forme plus longtemps.
Oui, ou même des opérations,
exactement,
etc.
Et le reste de la population n'y aura pas accès.
Oui.
Et on revient toujours au problème dont je parlais précédemment. Pourquoi faire? Que cherche-t-on? Est-ce qu'on est toujours dans le mythe de Faust? Ou est-ce qu'on a vraiment réfléchi au sens que l'on voulait donner à notre vie?
Voilà. D'où l'intérêt de cette association dont vous parlez dans votre ouvrage, qui s'appelle Hold Up. Alors, on est amusé par le mot, hein, évidemment. Et old, c'est le mot anglais old, O-L-D, qui signifie vieux. Hold Up. Alors, c'est une association, mais qui est nationale, qui est parisienne.
Alors, c'est une association qui est née à Paris en 2008. Et qui maintenant développe, qui aimerait en fait se constituer en fédération progressivement, donc qui développe des antennes. Je crois qu'il en existe à présent une à Lyon, une à Nantes. Il est question d'en développer une à Brest. Donc c'est une association qui s'accroît, qui regroupe les plus de 75 ans, qui, comme ils le disent, ils ont un site internet d'ailleurs.
Voilà, plus de 350 adhérents actuellement,
c'est
ce que j'ai lu.
Et c'est des gens qui ont plus de 75 ans, hein, donc c'est pas la première partie de la retraite. Hein.
C'est le quatrième âge.
Exact, c'est ce qu'on appelle le quatrième âge, tant soit-il que l'âge soit un critère valide. Que veut dire l'âge? Vous rencontrez tellement de gens qui, certains à 65 ans vont être très affaiblis, d'autres à 83 trottent allègrement.
On parlera de l'affaiblissement parce que parfois il y a également dans la tête que ça se passe.
Exactement.
Hein.
Et ça, et c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Ça, c'est ce que j'ai aimé dans l'association, c'est qu'on n'est pas du tout dans un déni du vieillissement. C'est-à-dire que ce n'est pas une association qui nie le vieillissement. C'est une association qui revendique, et c'est pour ça qu'ils parlent eux-mêmes, qu'ils parlent de vieux, et qui revendique le fait d'acquérir une plus grande visibilité et de trouver une place, de s'autoriser à exister. C'est-à-dire que vieux, dans l'esprit des gens, c'est avoir été. Eh bien non, c'est être aussi.
C'est être
aussi au présent.
Et avoir des projets.
Alors,
je vous propose une pause musicale et nous allons parler encore, bien sûr, de cette association et de tout ce que vous avez entendu et vécu au sein de cette association.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Nous reprenons notre entretien avec Frédéric Savona-Chinier et autour de son ouvrage « Les nouveaux vieux sont arrivés ». Voilà un titre qui fait tilt, qui fait choc, qui intrigue, qui amuse. C'est aussi autour d'une association qui s'est créée, qui s'appelle Hold Up et qui tend à devenir nationale et qui veut montrer que la vieillesse n'est pas un déclin, mais une conquête, c'est ça ?
C'est ça, et plus précisément, je dirais qu'il ne s'agit pas de nier les pertes qui s'accumulent lors de la vieillesse, la fatigabilité, les petits handicaps qui s'accumulent, etc. Il s'agit de mettre en adéquation ces années de vie qu'on a gagnées et ce qu'on pourrait en faire. Et actuellement, le souci, c'est qu'il n'existe pas de modèle. Il n'existe pas de modèle collectif. Et donc, on a un nombre incroyable de gens qui se trouvent un peu dans un no man's land et qui ne se sentent plus utiles, alors qu'ils pourraient l'être, évidemment. Donc, Hold Up, se propose, en fait, de réfléchir à la place que peuvent occuper ces personnes avec... Bien sûr, il ne s'agit pas de construire une nouvelle forme d'élitisme en proposant une activité à tout prix, mais de réfléchir à ce que chacun peut faire en fonction de ses capacités, en fonction de la vieillesse qu'il vit, de son vieillissement subjectif et personnel. Et il s'agit, pour moi c'est un mot fondamental parce qu'il est au centre du livre, d'imaginer parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'on se trouve face à une population d'une telle ampleur, et ça va continuer, de cet âge-là. Donc il faut imaginer des choses pour qu'on ait une société où cette population soit incluse.
Oui. Alors imaginer, c'est-à-dire trouver des ressources culturelles, également de nouveaux modèles. Enfin, il faut penser à la reconversion au fil du vieillissement, si j'ai bien compris aussi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, alors Hold Up, je précise, ils sont organisés, ils ont des ateliers, des ateliers de réflexion divers et variés, hein, on en parlera peut-être, et puis des actions sur le terrain, ils travaillent auprès d'organismes comme la RATP, la SNCF pour apporter des adaptations, hein, en fait, mais des adaptations qui peuvent également servir aux personnes en situation de handicap, etc. Et comme vous le dites très justement, moi, mon souci, et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est de bien concevoir que pour imaginer une nouvelle vieillesse, il faut repenser tout le temps de l'existence. Parce que, ou sinon, on ne fera qu'accroître les inégalités. On sait que le temps de la vieillesse, c'est le temps où les conduites, où les comportements, où les acquis se rigidifient, se figent. Et donc, si on intervient... Après 70 ou 75 ans, il sera trop tard. Donc, Hold Up, l'action que mène l'association est formidable parce que ces personnes sont déjà dans les âges, les derniers âges de la vie, donc elles ont envie d'agir tout de suite. Mais je dirais à un niveau plus macro-sociologique ou macro-économique et donc politique, je pense qu'il faut réfléchir notre vieillesse en termes de politique globale, d'organisation sociale. Et la formation dont vous parliez, elle est essentielle, mais il faut que toute la vie, les gens entrevoient ce que va être ce dernier temps de l'existence. Sinon, on va se retrouver face à des populations qui vont être un peu perdues. Il faut savoir aussi que les inégalités, évidemment, la situation des vieux s'est améliorée, vous le rappeliez tout à l'heure, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore aujourd'hui une grande pauvreté chez certaines personnes âgées. Cette pauvreté est réelle, elle touche beaucoup de monde. Il faut savoir aussi qu'un ouvrier a 7 ans d'espérance de vie en moins qu'un cadre. Et donc, moi, c'est des préoccupations qui me tiennent vraiment à cœur. Parce que pour imaginer une vieillesse, encore faut-il tenir compte du parcours de chacun. Sinon, on risque encore une fois de plaquer des modèles, d'agir en expert, d'agir de l'extérieur et de ne pas travailler avec les populations pour construire quelque chose qui leur corresponde.
Oui, et vous ne niez pas non plus qu'il y a effectivement bel et bien des difficultés. Il y a les problèmes de santé, il y a les, disons, les limitations fonctionnelles, je dirais. Et puis, autour de soi, et ça, on le vit parfois très tôt, la disparition des parents, d'amis, qui affectent quand même.
Tout à fait. Et c'est pour ça que je parle dans le livre de pertes successives, hein, qui ont été observées d'ailleurs avant moi par beaucoup de chercheurs dans différents domaines. Mais effectivement, ce temps de la vie est marqué par, c'est vraiment un nœud identitaire. C'est-à-dire que disparaissent énormément de choses, des groupes d'appartenance, en premier lieu évidemment le travail, mais depuis, puisqu'on est avec des gens de 75 ans depuis un certain nombre d'années, mais aussi, comme vous le dites, des amis, parfois le conjoint. Donc, tout un ensemble de repères qui s'effondrent et qui nécessitent de relancer cette dynamique identitaire. Et comment fait-on pour relancer une dynamique identitaire ? Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose de proposer.
Et puis, le monde, en général, est peut-être moins accueillant aux personnes âgées.
Tout à fait. De toute façon, comment voulez-vous que dans un monde où la préoccupation principale est de créer des marchandises...
Et puis, c'est le jeunisme, là. Il faut être jeune, beau et bien portant.
Mais qui est lié. C'est-à-dire que c'est le règne de la performance. Performance dit jeunisme. Oui. Il faut être jeune, performant, productif. Donc, évidemment, quand on est vieux, plus productif, on se dit ça va être compliqué. Oui. Et pourtant, le nombre et le profil de nos sociétés ne fera qu'on ne pourra pas faire l'économie de cette réflexion et de ce changement, de cette évolution de société. Et la fatigabilité, c'est très important. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas, quand je parle d'activité, de retrouver un sens, des raisons de vivre. Moi, c'est une expression que j'ai très souvent entendue au cours des entretiens individuels et dans les réunions. Il ne s'agit pas de dire on va travailler jusqu'à 75 ans. C'est pas du tout le propos du livre. Il s'agit d'imaginer à quel rythme, quel type, en fonction des publics, c'est très important, il faut différencier les publics. Quel type d'activité, quel type d'occupation, d'activité, de place on peut offrir aux principaux intéressés qui sont non pas des objets d'études, mais des acteurs directement concernés avec qui on va travailler. Pour définir pour chacun comment il va pouvoir retrouver une place. Moi, je pense par exemple à une dame qui est devenue un petit peu porte-parole de l'association.
Marie-Françoise.
Alors Marie-Françoise, c'était la
responsable.
C'était la responsable, c'était la présidente, Marie-Françoise oui. Fuchs, mais qui ne l'est plus actuellement, qui a passé la main à Philippe Guton. Mais je pensais non à une autre dame qui se nomme Colette et dont je parle un petit peu dans le livre, et qui effectivement souffrait de cet isolement et de cette perte de solitude. Une fois qu'on a passé un certain âge, comme vous le dites, on est souvent isolé, on n'a pas de sollicitation de l'extérieur et donc on se sent inutile. Et c'est terrible de se sentir inutile. Et tous les gens, même sans être âgés, tous les gens qui ont traversé des périodes de grandes maladies savent à quel point c'est terrible de se sentir inutile. Si tant est que, enfin, je prends avec beaucoup pincette le mot utilité, parce que
c'est la rentabilité.
Voilà. C'est le mot qu'utilise l'association, oui. Donc je le reprends. En ce qui me concerne, je parle plus volontiers de place. Chacun a sa place et doit la garder. Et cette dame, elle avait donc retrouvé, mais alors un moral d'acier, en devenant un petit peu la représentante d'Hold-Up. Donc elle avait retrouvé un petit peu une fonction, elle parlait des missions de l'association, des actions, donc elle était appelée par différentes radios, différents médias, et ça lui a redonné une patate pas possible. Donc ça, des exemples de ce type, j'en ai énormément, j'en ai observé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pardonnez-moi, je cite juste un autre exemple. Je pense à une dame qui était professeure et qui, dans un des ateliers qui s'appelle Europe, donc, me racontait qu'elle n'aurait plus la force de faire aujourd'hui ce qu'elle appelait un grand barnum dans les amphithéâtres ou de réfléchir, et puis que tout ça, finalement, ça la fatiguait. Mais que dans son atelier, où il y avait très peu de personnes, et ça c'est important qu'il y ait peu de personnes, parce que du coup chacun est là physiquement, le rapport au corps, on pourra y revenir, mais c'est fondamental, eh bien ça lui apportait vraiment une plénitude qui la satisfaisait tout autant. C'est-à-dire que l'objet était le même, elle s'intéressait toujours à l'Europe, à la politique, la façon de le faire avait profondément changé, elle s'était adaptée, mais l'investissement qu'elle mettait était le même. C'est-à-dire qu'elle mettait tout ce qu'elle pouvait mettre avec la force qu'elle avait à son âge.
Alors, j'ajouterais que finalement aussi dans ces ateliers donc qu'organise l'association Hold Up, alors je précise que malheureusement à Toulouse il n'y a pas
pour l'instant.
Il y a finalement une forme de complicité, de connivence du fait de l'âge, on peut se parler, on sait de quoi on parle, on a le même ressenti, le même vécu, les mêmes appréhensions, etc. Non, il y a ça aussi.
Exactement, et ça c'est une expression qui a été employée par un des rares membres masculins, parce que malheureusement c'est un reflet de la société.
Oui, alors je pense qu'il faudra que vous écriviez un second volet à votre ouvrage sur les hommes, parce que le rapport des hommes
n'est pas le même du tout.
Pas du tout le même.
Du tout. Et c'est vrai qu'à Hold Up, c'est même pas 10%, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a l'espérance de vie, alors même si la différence a tendance à s'amoindrir.
Mais on les voit nulle part.
Mais on ne les voit pas, et je dirais, moi, ce que j'ai observé, en tout cas, et je ne veux encore une fois pas faire de généralité, parce que je n'ai pas fait d'études sur ce sujet précise, mais la simple observation m'a montré, au sein de l'association, que les hommes se situaient souvent dans une sorte de prolongement de l'activité. C'est-à-dire, il y avait un rapport... Moi, je me souviens d'un membre de l'association qui m'a dit « Mais on n'est pas assez agressif. Il faut qu'on rentre dedans. Il faut qu'on agisse
et
plus énergiquement. »
C'est vrai qu'ils peuvent prendre d'énormes responsabilités après leur retraite et de faire très bien les choses.
Mais le comportement est très différent. Très, très différent. Et alors, du coup, je ne sais plus quelle était votre question sur les ateliers.
Oui, alors, je parlais de connivence.
Ah, la connivence, oui.
Oui, voilà.
Donc, c'est précisément un des membres masculins de l'association qui m'avait parlé de cette expression que j'ai reprise dans le livre parce que je la trouvais très belle, la connivence de l'âge. Et il me disait, je l'ai entendu souvent dans les entretiens, Hold Up, c'est le seul endroit qu'on a pour parler. C'est-à-dire qu'on n'a pas un rôle à jouer.
Oui. On n'est pas... Il n'y a pas de lieu.
Il n'y a pas de lieu qui existe. Il n'y a pas, alors ce que Marcel Gauchet appelait les lieux instituants, les gamins, les enfants ont l'école. Après, il y a des symboles dans la vie. Il y a le baccalauréat, le premier appartement, le travail. Mais après, quand on arrive à 75 ans, à 80 ans, n'existe rien. Encore une fois, on n'a pas de modèle collectif. On est dans un no man's land. Et dans cette association... C'est un espace collectif, et le terme collectif est fondamental, où les personnes s'autorisent à parler de choses qu'elles n'oseraient pas dire, mais même à leurs enfants. C'est des sujets, ils sont entre eux et ils se lâchent. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on pense.
Alors, oui, je vous interromps juste un instant. Il y en a même un ou une, je ne sais pas, qui dit « Dans le fond, maintenant, la famille a beaucoup moins d'importance pour moi ».
C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des personnes qui ont parfois plus de 85 ans, etc., et qui donc ne sont plus dans le rôle même des grands-parents, qui sont passés dans le statut d'arrière-grands-parents.
Il y a une distance déjà.
Et là, il n'y a pas de statut d'arrière-grands-parents. C'est-à-dire que, comme me disait, là c'est pareil, parce que j'ai repris beaucoup, beaucoup d'expressions qui étaient très savoureuses, et encore une fois, pour moi, il s'agissait aussi de donner la parole, qui me disait « je suis devenue mythique ». Mais ça, on dit long, c'est un mythique, il n'existe plus tout à fait. C'est une mythologie dans la famille.
Et c'est vrai que la multiplication des familles recomposées fait
exactement.
Que les personnes, les grands-parents ou arrière-grands-parents ne s'y retrouvent plus beaucoup.
Il y a vraiment une distorsion au niveau familial et une difficulté parfois, pas toujours bien sûr, mais parfois à se situer dans la famille. Et puis effectivement, le rapport au temps, la conscience accrue de la fin qui est là. Je cite, parce que j'aime bien citer les gens que j'ai interviewés, une dame me disait, elle avait 82 ou 3 ans à l'époque, et elle me disait « Bien sûr que je savais que j'allais mourir, je l'ai toujours su, mais là, c'est pas pareil. Maintenant, je sais que c'est là, je sais que ça va arriver. Ça change tout. Avant, on le sait, mais ça reste un petit peu théorique, dans un coin de la tête. C'est là, c'est physique. » Je le sais, tout mon corps le sait, tout mon être le sait. Et donc forcément, ça induit un énorme changement dans le rapport aux gens, dans le rapport aux autres. Et l'amour de la famille demeure, mais il y a une sorte de liberté, on lâche beaucoup de choses. Moi, c'est ça qui m'a interpellée aussi, c'est cette impression de grande liberté acquise.
Ça rejoint la phrase de Wolinski que je citais en début d'émission, qui disait que la vieillesse, j'essaie de retrouver mes notes, j'avais trouvé 10 ans, c'est savoir perdre.
Exactement. Exactement. Et alors, une dame me disait, ça rejoint le propos de Walensky, elle me disait, je sais que j'ai perdu de mon pouvoir de guidance, mais j'ai acquis en liberté. J'ai perdu des choses, mais j'en ai acquis d'autres. C'est-à-dire que je suis plus libre de regarder autour de moi ce qui se passe, d'entendre différemment les choses, de les prendre avec distance si je n'ai pas envie de m'y investir, parce que je suis libre. Et d'ailleurs, ça c'est aussi une donnée fondamentale à Hold Up, il n'est pas question de créer... Les gens ronchonnaient un peu au début, certains dans les entretiens, en me disant... j'avais peur quand je me suis inscrite à l'association qu'on me remette sur les épaules un cadre contraignant avec des horaires fixes, des ateliers où il fallait que je me rende systématiquement. Moi, il y a des jours où je suis très fatiguée, où je ne peux pas.
Et donc, terminez, excusez-moi.
Pardonnez-moi, je termine juste. Et ça, justement, c'est un écueil qu'a évité l'association. C'est-à-dire que les ateliers. Les gens y vont, mais ne sont pas tenus d'y participer. C'est très souple. Les cadres qui ont été formés au sein de l'association sont des cadres collectifs qui restent extrêmement souples.
Donc, il y a moins de contraintes.
Il y a moins de contraintes.
Alors, voilà, la question, en lisant votre ouvrage, en lisant cela, je me disais, mais en même temps, et peut-être que faut-il atteindre le grand, grand âge pour penser à cela, parce que moi je me disais mais pourtant, parfois il faut quand même se botter le cul, excusez-moi l'expression, hein, il faut parfois s'obliger à faire des choses.
Alors, je vais répondre à votre question parce que c'est dans le prolongement du cadre informel dont je parlais, c'est que ce que l'on observe et qui peut sembler paradoxal mais ne l'est pas, c'est que finalement, en disant aux gens vous n'êtes pas tenu de venir, vous n'êtes pas obligé, psychologiquement le cadre n'est pas là, et on constate malgré tout que finalement dans les ateliers, beaucoup de monde se déplace, et que, comme vous le dites, et ça c'est important, le changement doit venir des plus jeunes, des autres générations, donc du regard que l'on porte sur les personnes âgées, des politiques, mais aussi des vieux eux-mêmes. C'est-à-dire que, comme le dit le livre, donc la collection débute avec un autre ouvrage qui a été écrit par une dame de l'association qui a 86 ou 87 ans, et qui compare, et j'aime beaucoup l'expression, Hold Up à un chaudron. C'est-à-dire, elle raconte que les adhérents mijotent un petit peu dans un chaudron où ils apprennent d'abord à se défaire de tout ce qu'eux-mêmes ont accumulé comme façon de se regarder, de se penser vieux. Et qu'il faut d'abord se changer soi-même avant de demander aux autres de changer de regard. Donc son propos est un peu radical, mais il est juste dans le fond. Oui. C'est vrai qu'il est juste. Et c'est un vrai souci parce que effectivement, on sort parfois un peu de sa zone de confort. Ça, il y avait un très beau bouquin de Marc Auger qui est paru maintenant, il y a, je pense, peut-être 2-3 ans. C'était une ethnographie de soi, Le temps sans âge. Il faudrait que je vérifie le titre exact. Mais ce bouquin de Marc Auger est très, très chouette. Et il dit bien à quel point il souligne le danger de se laisser enfermer dans une prison sémantique. Et d'y rester finalement assez confortablement, pépère, peinard, mais complètement à l'écart du monde.
Voilà.
Donc ça, c'est aussi une responsabilité des vieux eux-mêmes.
Oui, je pense aussi qu'il y a quand même la démarche personnelle.
Tout à fait.
Alors, Frédéric Savona-Chigné, je vous propose une courte page musicale et nous reprenons ensuite.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Les nouveaux vieux sont arrivés. Non, ce n'est pas le Beaujolais, mais c'est les nouveaux vieux. Et il faut prendre cela avec l'humour que développe Frédéric Savonachinier, qui a écrit cet ouvrage fort étayé, fait de rencontres, de multiples rencontres, et dans le cadre d'une association Hold Up, une jeune association, enfin elle n'est pas très ancienne, et qui a tendance et qui veut se développer, une association donc qui regroupe des personnes qui ont 75 ans et au-delà. Voilà. Alors, Frédéric Savonachinier, on a dit beaucoup de choses. On a parlé de cette inversion de la courbe de l'âge, de la pyramide de l'âge, pardon. Et effectivement, ça suscite de l'angoisse. Ça suscite de l'angoisse chez les personnes qui vieillissent, sans doute. La mort, l'approche de la mort peut inquiéter. Mais aussi pour les responsables publics de la sphère publique, il faut quand même organiser tout ça.
Alors, c'est ce que je disais en début d'émission. En fait, il y a deux soucis majeurs. Le premier, c'est qu'on a un peu une obsession démographique. L'expression n'est pas de moi, mais d'une historienne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Élise Feller, et qui a écrit une histoire de la vieillesse assez monumentale. Cette obsession démographique, je pense qu'on se fait un peu peur avec tous ces chiffres. Oui. Et pourquoi je m'explique, c'est que on fonctionne dans nos données statistiques avec, alors il y avait les 65 ans et plus, et maintenant depuis 2014, on est passé aux 60 ans et plus. Mais quelle est la validité de ce chiffre? Parce qu'enfin, de quand date-t-il? Il date des années 20, donc de 28, oui, d'Alfred Sauvy, où à l'époque, effectivement, on avait peur de la dénatalité après les guerres, et il y avait un vrai enjeu, mais qui n'existe pas aujourd'hui. Et moi, ce qui me trouble, et plusieurs chercheurs l'ont souligné, comment se fait-il que l'on n'ait pas remis en question ce chiffre de 65 ans, alors qu'on a gagné plus de 10 ans d'espérance de vie? Et vous avez des démographes comme Patrice Bourdelais qui font remarquer que si on reporte de façon homothétique, on se rend compte que finalement, la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on voudrait bien le dire, d'autant plus que même s'il a diminué, le taux de fécondité en France reste quand même assez fort. Donc ça, c'est le premier point. On est un peu dans une phobie démographique où on se fait peur avec des chiffres. Le deuxième qui en découle, donc il faudrait, pour finir avec cette obsession démographique, il faudrait quand même un petit peu repenser les catégories qui maintenant sont très contraignantes, dans lesquelles on a enfermé, nos outils de mesure sont obsolètes. Alors les outils, il en faut, ça je ne le nie pas, mais encore faut-il qu'ils soient pertinents. Et je pense que l'âge chronologique tel qu'il est utilisé systématiquement aujourd'hui n'est plus pertinent. Deuxième chose, depuis les années 80, donc les politiques de la vieillesse qui se sont mises en place depuis le rapport Larocque dans les années 60, ont été complètement phagocytées par, pour le dire pompeusement, le paradigme de la dépendance. C'est-à-dire que la dépendance...
Vieillesse égale dépendance.
C'est ça. D'ailleurs, je déteste ce terme parce que nous sommes tous dépendants les uns des autres.
Oui,
donc
c'est très juste.
C'est la base d'une société. Oui. Donc je préfère celui de perte d'autonomie. Et cette perte d'autonomie, elle ne concerne pas 100% de la population âgée. À 75 ans, 80 ans, ça va être au maximum 20%. Donc il y a 80% des gens qui vont avoir certes un vieillissement. Il ne s'agit pas de nier le vieillissement, mais de dire attention, parce qu'en faisant de cette problématique de la dépendance l'unique socle de pensée de la vieillesse, eh ben premièrement, on enferme la vieillesse dans un angle santé publique. On pense la vieillesse en termes de santé publique.
Oui, voilà, on médicalise.
Exactement, on médicalise et les vieux, ouais, deviennent une nouvelle catégorie de malades.
Et puis, Frédéric Savonachinier, il y a une chose quand même. Les vieux étant improductifs, ils sont inutiles, ils sont un poids. Il y a cette image-là quand même qui peut entrer et qui risque d'arriver, non, ne vous croyez-vous pas? Puisque quand même les jeunes actifs seront moins nombreux et ils auront le poids des retraites. Et ça, c'est assez culpabilisant, non?
Alors, cette image, elle est déjà là, elle est là depuis longtemps. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé les rapports sur de la constitution d'une politique vieillesse. Mais encore une fois, et je vais répondre à votre question, ce qui moi me pose un réel problème, et je ne suis pas la seule, puisqu'il y avait des lanceurs d'alerte, si je puis les appeler ainsi, depuis les années 60, c'est que encore une fois, c'est ce que vous évoquez et qui est vrai, ne peut pas se résoudre si on ne repense pas l'organisation sociale. C'est-à-dire que tant que les temps de la vie sont organisés de façon ternaire, éducation, emploi, retraite, on va se heurter à cette problématique-là. Mmh. Alors vous allez me dire, il y a du travail. Oui, effectivement, il y a du travail pour repenser, pour imaginer une nouvelle façon de parcourir la vie, de prolonger les temps de formation, de donner aussi aux plus âgés la possibilité d'être actifs. Et j'aime beaucoup ce terme d'activité que je différencie clairement de celui de salarié ou de travail productif.
De se prendre en charge.
Voilà, de se prendre en charge. Ça, à moyen terme, je pense, des études seront faites. Mais il est bien évident, c'est du bon sens, que quand on se sent utile, qu'on a une place, et là je reviens sur ce que fait Hold Up et sur la notion de trouver sa place, de trouver un rôle dans cette société, quel que soit son âge, il est bien évident qu'on vieillit moins péniblement, puisqu'on se sent, on n'est pas à la marge de la société, on est dans cette société, et donc en termes de santé publique, ça coûte moins cher, parce que les gens ne se laissent pas aller.
Bien sûr.
Donc ça, c'est déjà un vrai avantage. Et pour revenir au terme purement économique, alors moi, je ne suis pas économiste de formation, mais ce qui me semble, en tout cas, c'est qu'il est temps, il faut, et heureusement, des chercheurs le font déjà, mais dans nos politiques aussi, repenser cette notion de productivité, repenser la notion d'activité, de valorisation symbolique de ce qu'elle peut apporter de façon indirecte. Et encore une fois, tant qu'on reste dans ce système d'organisation ternaire, il va être difficile de sortir de l'impasse. Tant qu'on reste avec une vision de masse énorme à gérer, qui pèse, et un terme du rapport Larocque était d'ailleurs grevé, qui grève la société française. Mais ça, c'est effectivement si on considère les personnes âgées uniquement comme une charge.
Comme un poids, voilà.
Comme un poids.
Oui, mais alors ça demande une imagination, le fait de sortir justement des références habituelles.
C'est très lourd.
C'est très lourd, oui. Ça me paraît, pas utopique, parce que je le souhaite, tout comme vous. Mais c'est vrai que je ne sais pas si on est bien parti dans ce sens-là.
Alors, c'est effectivement totalement à contre-courant. C'est effectivement quelque chose qui semble très utopique dans notre société mondialisée où prédominent et prévalent des valeurs que vous avez rappelées, la performance, le jeunisme, le productivisme. Bon. Mais en même temps, je dirais que c'est un petit peu comme l'écologie. Alors, faut-il parler de vieillissement durable ? Si on ne peut pas faire l'économie de cette remise en question. Si on fait l'économie de cette remise en question, je pense qu'on ira dans le mur. Parce qu'on se trouvera effectivement avec une guerre des générations, on se trouvera avec une masse de gens, on sait maintenant que cette population qui a pris une place démographique importante va la garder, que c'est acquis, que c'est un nouveau profil démographique de nos sociétés, et donc on ne peut pas rester comme ça avec presque un tiers de la population qui serait à la marge. Donc on va être amené, alors j'espère qu'on n'attendra pas qu'il soit trop tard pour changer et réfléchir les choses, mais je suis d'accord avec vous, les défis sont très lourds, il va falloir vraiment se retrousser les manches, être nombreux, parce qu'encore une fois, ça soulève peut-être plus de problèmes que ça ne pose de questions, donc j'en ai bien conscience. Et c'est pour ça que l'association Hold Up est intéressante, c'est parce le problème est tellement vaste, et je dirais pas le problème, je dirais la question est tellement vaste, qu'il faut bien s'en emparer par un bout. Et le plus d'Hold Up, c'est de s'en être emparé. C'est de se dire, bon, on a bien conscience que c'est pas parfait, qu'on peut pas résoudre tout dans notre association, mais au moins, à notre niveau, on va proposer des choses. On va essayer de proposer des choses.
D'accord. Oui, parce que, en fait, vous montrez que même dans les EHPAD, par exemple, on choisit pour les personnes qui sont là, elles n'ont pas, au sein des résidences, on parle pour eux, on choisit pour eux. En fait, je me dis, c'est la solution de facilité. Il nous faut des catégories prêtes à gérer.
C'est
quoi.
Ça. D'ailleurs, je crois que c'est le terme que j'emploie dans le livre. Oui, oui, oui. C'est vraiment des catégories prêtes à gérer. Et les questionnaires auxquels on soumet les panels de gens au sein des EHPAD, etc. Mais c'est biaisé. Oui. Parce que de toute façon, les gens sont enfermés dans des séries de questions toutes prêtes. Et puis, s'autorisent-ils à dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire ? n'en suis pas certaine.
Alors, la question que je me suis posée également, c'est qu'en vous lisant et en voyant le bonheur d'une de vos personnes, alors je ne sais plus si c'était Marie-Françoise, contente parce qu'on va lui donner, on va lui demander d'intervenir, je ne sais plus, à l'UNESCO, je crois, je ne sais plus, je me trompe peut-être, mais dans une instance importante. Mais par rapport à la vieillesse, je me suis dit, oui, d'accord, quand les vieux parlent des vieux, parle de la vieillesse, mais est-ce que au sein même des institutions générales, pourquoi n'utilise-t-on pas les sages, comme vous parliez de pays en Asie par exemple, pourquoi n'utilise-t-on pas les sages en tant que conseil? On ne leur demande pas de prendre le pouvoir, parce qu'effectivement, bon, il y a quand même un problème d'activité, de représentativité, etc. Mais ça, effectivement, ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. Alors, il y a une dimension culturelle très importante, comme vous le disiez. Hein, c'est pas dans notre culture. L'association, et j'en parle également dans le livre, parce que moi, ça m'a aussi interpellée. C'est vrai que ce qui était très étonnant, c'est qu'on avait l'impression, on n'avait pas l'impression, je constatais que le fait d'être vieux devenait non pas une marque d'identité, mais une capacité, une compétence. Mmh. Une compétence.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on agit en tant que vieux parce qu'on est compétent pour parler des vieux. Mmh. Donc, ça pose aussi problème hein, quant à la représentativité, qui oui. dit quoi, qui représente qui. Donc, ça pose un certain nombre de questions. Mais je pense, encore une fois, que Hold Up, pour moi, c'est une association de défricheurs. Donc, il y aura forcément des prolongements, des déclinaisons. Eux commencent, c'est tout jeune, hein, c'est une association qui a à peine 10 ans. Donc, comme vous le dites, beaucoup reste à faire, justement pour ne peut-être pas enfermer des associations de type Hold Up dans des rôles qui seraient exclusivement tournés vers la vieillesse. Mais c'est leur but. Hein, je pense que là, ils cherchent des portes, en fait, des portes d'entrée dans la société.
Et ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a un problème aussi d'un changement dans le travail et les nouvelles technologies qui dépassent certains. Mais ça ne va pas durer, ça, parce que les futurs retraités vont être au courant de tout cela.
C'est ça. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les vieux de demain, et des lieux d'après-demain, n'en parlons pas. C'est vrai qu'on aura une familiarité au numérique qui n'est pas celle des générations. Là, je pense qu'eux font vraiment le plus dur. Parce que c'est des gens à qui on a demandé d'apprendre à se servir des tablettes, des SMS, et qui n'en avaient jamais utilisé. Nous, et puis il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a cette bascule numérique et il y a aussi le fait que le numérique devienne de plus en plus intuitif. C'est-à-dire que plus on avance, plus les outils sont faciles à utiliser. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début des années 80, c'était un casse-tête chinois. Là, maintenant, ça devient assez intuitif. Donc, c'est à la fois, je dirais, un frein, mais pas forcément. Et d'ailleurs, au sein des EHPAD, je mentionne une petite expérience qui a été faite, qui a été un vrai succès. Contrairement à ce qu'imaginaient les directeurs d'EHPAD eux-mêmes, qui au début étaient extrêmement réservés, sceptiques, on a introduit des tablettes dans les EHPAD et on s'est rendu compte que, pour les personnes âgées, elles avaient demandé à participer aux ateliers. Ces ateliers avaient eu un succès fou parce que ça leur avait permis de reprendre contact avec les petits-enfants par mail et de partager des espaces de rêve, de voyage, qu'elles ne pouvaient plus parcourir elles-mêmes physiquement. Donc ce projet a été un vrai succès. Alors le numérique, oui et non. C'est à la fois un problème, mais aussi peut-être une ouverture.
Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire, Frédéric Savona-Chinier, mais le temps qui nous est imparti s'achève. On a vu ce que pourraient et doivent faire les pouvoirs publics, les instances. Mais il y a quand même le cheminement personnel. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Le secret, où est-il?
Alors, je pense que le secret est en chacun. c'est une subjectivité. Il n'y a pas une vieillesse, mais autant de vieillesse que de personnes. Donc, je pense que c'est à chacun de réfléchir avant, au cours de sa vie, qu'il a envie de faire en étant vieux, de se donner peut-être d'autres pistes. On sait que maintenant... D'être curieux. On sait que les gens s'investissent de plus en plus au sein des associations. De proposer aux plus âgés des modalités de participation qui leur soient adaptées. Et les plus anciens, oui, je dirais que le secret de chacun est en soi. Et en somme, comme me disait hier un intervenant pendant le débat, je suis vieux si je le veux.
Voilà. Et rester ouvert à l'inconnu, au grand mystère. c'est ce qui fait la beauté de la vie, finalement.
Exactement. Exactement.
Merci,
c'est moi qui vous remercie.
Frédéric Savonin-Chinier. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de l'ouvrage intitulé « Les nouveaux vieux sont arrivés », référence à l'association Hold Up que l'on peut trouver sur Internet. Bon, maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent Internet. Et puis, en espérant que dans notre grand sud-ouest, il y aura cette association.
Je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur. Merci à vous.
Merci, au revoir.